Voilà, je vais commencer le cours. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et merci d'être venus malgré les températures arctiques qui sont autour de nous. Que fait l'œil du spectateur de l'œuvre d'art? C'est la question de mon cours d'une part. C'est aussi une question qui intéresse l'ensemble du discours de l'art et ce, dès le VIe siècle. Les textes sur l'art sont très souvent intéressés à l'œil du spectateur, au regard, au comportement du spectateur par son œil. Cet intérêt n'a pas encore été l'objet d'une analyse systématique et je vais essayer aujourd'hui de combler cette lacune, du moins en partie. Je vous présente les résultats de l'examen d'un corpus de textes dont j'avais parlé à la fin du dernier cours. Corpus réuni pour étudier le rôle de l'œil du spectateur dans le discours sur l'art, avec des textes pertinents que j'ai trouvés depuis plusieurs années, avec l'aide de quelques collaborateurs dont j'avais nommé les noms la dernière fois. Recueil systématique de textes d'histoire de l'art d'une part, sur la base de la réception de quelques œuvres majeures de deux artistes de la Renaissance qui ont été très souvent discutés, c'est la raison pour laquelle je suis parti sur eux. D'une part, Michel-Ange, ce sont des textes que j'avais déjà dépouillés lors de ma thèse, et d'autre part, Raphaël, en choisissant la Transfiguration, les fresques du Vatican et la Madone Sixtine. D'autre part, un recueil bien moins systématique, malheureusement, de textes de critiques d'art, surtout ceux du XIXe siècle. Il s'agit dans l'ensemble de plus de 500 textes qui ne sont évidemment qu'une petite section du discours sur l'art, mais, et une section aléatoire en plus, du moins en partie aléatoire, mais qui est quand même, je pense, suffisamment représentatif pour en tirer des conclusions générales. Alors, pour vous donner une impression, disons que 30% de ces textes mentionnent de façon explicite l'œil du spectateur. Le premier constat est qu'il en ressort deux concepts majeurs et quelques concepts mineurs dont je ne vais pas parler, mais je vais parler aujourd'hui de ces deux contextes majeurs. L'un est le mouvement de l'œil, et nous verrons que c'est une métaphore surtout pour la composition de l'œuvre, et l'autre est une question de l'histoire de l'œil, métaphore d'une histoire et géographie de la perception. Je discute d'abord, et bien plus longuement, le premier de ces deux concepts, donc le concept du mouvement de l'œil du spectateur, concept dont les racines sont très anciennes, mais c'est Diderot qui, en 1767, a perfectionné la formulation de ce concept, et c'est avec lui que je vais commencer maintenant. Alors, le contexte de ce texte est le salon de 1767. Et il s'agit en particulier de deux tableaux exposés à ce salon. L'un est ici et l'autre est ici. Le miracle des Ardents par Doyen et Saint-Denis prêchant en Gaule par Joseph Vien. Vous voyez qu'à l'intérieur du salon, ces deux tableaux étaient probablement les plus grands en absolu, qu'ils étaient pendus en pendant de façon symétrique, donc sur un des murs, même le mur le plus en évidence du salon, et qu'il est assez naturel que grand nombre de visiteurs de ce salon se sont plongés sur ces tableaux. Tous deux étaient commandés pour les deux autels devant les parois latérales du transept de l'église de Saint-Roch, où il se trouve encore aujourd'hui, malheureusement, en assez mauvais état. Il représente, à gauche, Sainte Geneviève, la patronne de Paris, intervenant pour libérer la ville de la peste en 1129. Et à droite, Saint-Denis, le patron de la France, donc il y a un programme très précis, et c'est une question qui n'est pas encore étudié à fond comment cette commande a été préparée et pourquoi est-ce que les tableaux, avant de rentrer à l'église, passent par le salon. Le format des toiles est identique. Leur comparaison fut le sujet de nombreuses discussions au salon. La discussion la plus longue est celle de Diderot, qui consacre à chacune 20 pages et qui, dans les deux textes, fait des comparaisons avec le pendant. Dans un article de 1973, Thomas Ketkens a montré que Diderot a un préjugé néoclassique qui le pousse à prendre position pour Vien contre Doyen. Je ne vais pas analyser l'ensemble de ces 40 pages de Diderot, mais il m'importe de souligner qu'il s'agit là de deux parmi les descriptions les plus longues, les plus riches et les plus originelles de l'ensemble des salons de cet écrivain et donc de l'ensemble du XVIIIe siècle. Que Diderot est féroce avec Doyen, il le dénigre sur tous les registres, ligne par ligne, tout au cours de ces 20 pages. C'est une guerre rhétorique très diversifiée dont le but est de convaincre le lecteur de la supériorité du tableau de Vien. Et c'est dans ce cadre que Diderot invente l'idée d'une ligne de liaison qui conduit l'œil du spectateur à travers le tableau. Je vous lis donc quelques lignes de ce texte de Diderot, la description de la composition du tableau de Vien. Voici donc le chemin de cette composition, écrit Diderot. La religion, l'ange, le saint, les femmes qui sont à ses pieds, les auditeurs qui sont sur le fond, ceux qui sont à gauche aussi sur le fond, les deux grandes figures de femmes qui sont debout, le vieillard incliné à leurs pieds, et les deux figures, l'une d'homme et l'autre de femme, vues par le dos et placées tout à fait sur le devant. Ce chemin, descendant mollement et serpentant largement depuis la religion jusqu'au fond de la composition à gauche, où il se replie pour former circulairement et à distance, autour du sein, une espèce d'enceinte qui s'interrompt à la femme placée sur le devant, les bras dirigés vers le sein, et découvre toute l'étendue intérieure de la scène. Ligne de liaison, allant clairement, nettement, facilement chercher les objets principaux de la composition. Vien est pour Diderot l'exemple d'une belle ligne de composition et j'ai essayé de dessiner cette ligne au feutre rouge par PowerPoint. Qu'est-ce qu'une telle ligne de composition ? Ou une ligne de liaison, comme la nomme Diderot. Diderot y revient dans le texte sur Doyen auquel il certifie d'en avoir une assez médiocre, et ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est une ligne de liaison beaucoup plus médiocre que celle de Vien. Je cite Diderot, « Il y a dans toute composition un chemin, une ligne, qui passe par les sommités des masses ou des groupes, traversant différents plans, s'enfonçant ici dans la profondeur du tableau, là s'avançant sur le devant. » Si cette ligne que j'appellerai ligne de liaison se plie, se replie, se tortille, se tourmente, si ses circonvolutions sont petites, multipliées, rectilinéaires, anguleuses, la composition sera louche, obscure. L'œil, irrégulièrement promené, égaré dans un labyrinthe, saisira difficilement la liaison. Si elle s'arrête, la composition laissera un vide, un trou. Le miracle des ardents de Doyen n'est pas irrépréhensible de ce côté. La ligne de liaison est enfractueuse, pliée, repliée, tortillée. On a de la peine à la suivre. Elle est quelquefois équivoque, ou elle s'arrête tout court, ou il faut bien de complaisance à l'œil pour poursuivre le chemin. Une composition bien ordonné, n'aura jamais qu'une seule, vraie, unique ligne de liaison, et cette ligne conduira et celui qui la regarde et celui qui tente de la décrire. La ligne de liaison est, Diderot le dit de façon explicite, la ligne de composition du tableau. Il en parle pour mettre en évidence la différence, ou plutôt la supériorité de Vien par rapport à Doyen. Diderot va cependant au-delà de cette comparaison. Il y a une phrase clé dans ce texte, c'est la phrase que je venais de lire déjà et que je répète volontiers, « Une composition bien ordonnée n'aura jamais qu'une seule, vraie, unique ligne de liaison, et cette ligne conduira et celui qui la regarde et celui qui tente de la décrire. » C'est une revendication fondamentale et globale pour toute peinture. Diderot explique comment un tableau, tout tableau, doit être composé. En bon philosophe de Lumière, il base ce précepte sur le mode de vision du spectateur, de tout spectateur. Il prétend de savoir comment se comporte son œil, comment se doit comporter son œil. Ce prétexte est tellement important qu'il en tire même une maxime littéraire. Cette ligne conduira et celui qui la regarde et celui qui tente de la décrire. Nous verrons la semaine prochaine que son modèle de la vision est physiologiquement faux. Mais je veux d'abord montrer que ce modèle est répandu dans le discours sur l'art. La plus ancienne description détaillée d'une architecture réelle est probablement celle que donne Procope de Césarée de la Sainte Sophie à Constantinople, un texte qui a été écrit vers 553, donc au milieu du VIe siècle, à l'intérieur d'un livre où Procope parle des bâtiments construits par Justinien. Je cite dans une traduction, « La voûte dorée ne semble pas être posée sur l'ouvrage de dessous, mais suspendue par des chaînes du haut du ciel. Toutes ces parties jointes ensemble avec tant d'art forme un merveilleux ensemblage qu'on ne peut regarder sans une agréable surprise. Les yeux ne peuvent pas s'arrêter longtemps et considérer un endroit sans être aussitôt attirés par d'autres. Les spectateurs sont dans un transport et dans une agitation continuelle qui procède du doute de ceux qu'ils y doivent le plus admirer. Leur esprit suit le mouvement de leurs yeux et, après être tourné de tous côtés, ils demeurent en quelque sorte en suspension. Le mouvement de l'œil est donc le moyen d'exprimer une caractéristique importante de cette architecture. Les visiteurs de l'église sont surpris parce qu'ils ne voient pas de piliers qui puissent soutenir cette coupole, coupole qui était la plus grande en dehors du Panthéon de Rome, qui était construite à ce moment-là. Donc, on a l'impression que cette coupole soit suspendue, ou du moins on se demande comment est-ce qu'elle peut tenir, puisque les murs que l'on voit ont de grandes ouvertures, des arcades et des fenêtres. Alors, la raison, du point de vue architectural, est évidemment qu'il y a des piliers, mais ces piliers ne sont pas visibles de l'intérieur, ils ne sont visibles que de l'extérieur, et c'est certainement quelque chose de voulu par les architectes. Quelque chose de voulu par les architectes et que Procope transforme dans une explication par l'embarrassement du spectateur qui cherche à voir les soutiens de cette coupole. Il y a donc chez Procope une conscience du lien entre l'œil et son mouvement avec l'attention du spectateur. Nous regardons là où se porte notre attention et c'est quelque chose qui effectivement se retrouve dans quelques autres textes de l'Antiquité. Nous voyons donc, puisque ce texte de Procope est intéressant étant le tout premier texte qui décrit de façon détaillée une architecture, donc dès le début de l'histoire de la description d'œuvres d'art, nous retrouvons une réflexion de l'œil. Cependant, ce texte reste assez isolé. C'est un rare exemple de description détaillée du premier millénaire de façon générale, et c'est le seul exemple de mention explicite du mouvement de l'œil dans le discours de l'art de cette époque que je connaisse. Le prochain exemple, et nous allons faire un grand bond de presque 900 ans, ou même de bien 900 ans, est le traité d'architecture de Philarète, architecte théoréticien florentin qui écrit dans les années 1460 un traité qui est resté manuscrit et qui est quand même, à côté de Alberti, un des premiers, le premier traité d'architecture de la Renaissance. Dans ce traité, Philarète compare l'arc en plein cintre avec l'ogive et plaide évidemment la supériorité de l'arc en plein cintre, celui des Romains et celui dont se servent les Florentins depuis Brunelleschi. Ce qui est remarquable, c'est la justification que donne Philarète. Il ne fait pas recours à des arguments historiques tels que de dire que les Romains étaient supérieurs et donc leur arc est supérieur, mais il utilise un raisonnement purement psychologique. Et vous voyez le texte italien que je vais traduire en français. Je ne vais traduire que les lignes qui sont les plus importantes que j'ai soulignées en jaune. La raison pour laquelle les ronds, c'est-à-dire les arcs en plein cintre, sont plus beaux que les aigus, c'est-à-dire les ogives, est sans doute que tout ce qui empêche plus ou moins la vue n'est pas aussi beau que ce qui la fait affluer et où rien ne retient l'œil. Et tel est le cas de l'arc en plein cintre, comme tu le vois. Mais ce n'est pas le cas de l'ogive, car l'œil, ou disons la vue, se pointe dans l'angle et ne passe pas comme dans l'arc en plein cintre, car l'ogive sort de la perfection. Il y a une différence essentielle entre ce texte de Philarète et le texte de Procope. Philarète attribue au mouvement de l'œil une qualité esthétique en soi. Il y a, d'après lui, des mouvements agréables et des mouvements désagréables. Les mouvements agréables sont ceux où l'œil peut parcourir sans obstacle. Les mouvements désagréables sont ceux où l'œil a des angles. Cette idée, selon laquelle le mouvement de l'œil aurait une ou même plutôt des qualités esthétiques au pluriel, revient vers 1600 dans deux descriptions d'architecture, mais vous voyez, ce sont des textes très isolés. Celle de la Venezia Città Nobilissima de Sansovino, un des premiers guides artistiques d'une ville de Venise, écrite en 1581, et la description de la Villa du Belvédère de Frascati par Monsignor Agucchi en 1611. Ça, c'est un texte qui est resté manuscrit jusqu'à peu. C'est donc à Paris, André Philibien, celui que j'aime bien qualifier de premier historien de l'art professionnel, que le concept d'un mouvement de l'œil a été introduit de façon durable dans le discours sur l'art. Dans l'une de ses premières descriptions de tableau, au sujet des reines de Perse au pied d'Alexandre, tableau de Lebrun qui se trouvait déjà alors dans les collections du roi, qui a été faite pour le roi, dans une de ses descriptions, dans cette description écrite en 1663, Philibien écrit, je cite, « Mais pour bien juger cette belle conduite des couleurs, il ne faut que considérer comment elles sont si judicieusement placées dans ce tableau, que l'œil passe insensiblement de l'une à l'autre, sans trouver rien qui l'offense par trop de disproportion ou de dureté. » Philibien élabore ensuite ce concept, peut-être en collaboration avec Lebrun et Bourdon, dans les conférences de l'Académie royale de 1667 que lui-même publie en 1668. Ces conférences sont, vous le savez bien, un point focal pour le développement non seulement du discours de l'art en France, mais de façon beaucoup plus générale pour le développement du discours de l'art en général. Il y a tout d'abord un passage intéressant dans la fameuse conférence que Charles Lebrun a donnée sur la manne, sur le tableau de la manne de Poussin. Je cite, « Il, donc Lebrun, dit que ce qu'il appelle partie sont toutes les figures séparées en divers endroits de ce tableau, lesquelles partagent la vue, lui donne moyen en quelque façon de se promener autour de ces figures et de considérer les divers plans et les différentes situations de tous les corps. Et les corps même différents les uns des autres. Que les groupes sont formés de l'assemblage de plusieurs figures jointes les unes aux autres et qui ne séparent point le sujet principal, mais au contraire qui servent à le lier et à arrêter la vue. Et dans la conférence suivante, livrée par Bourdon sur la guérison des aveugles de Jéricho, encore de Poussin, Philibien ou Bourdon, c'est toujours un peu difficile de savoir quelle a été la part de Philibien, rédacteur de ces conférences. A-t-il peut-être même déjà participé à l'instauration de ce texte ? Il faut bien savoir que ce sont des peintres qui étaient obligés par Colbert à donner des conférences alors qu'ils n'étaient pas vraiment, n'avaient jamais été auteurs auparavant. Et Philibien était secrétaire de l'Académie et je pense qu'il avait un rôle assez important dans les conférences, autant dans leur création que certainement, puisque c'était son rôle officiel, dans leur publication. Donc, Bourdon et ou Philibien écrivent « Il, Poussin, a trouvé le moyen de satisfaire davantage la vue par les objets divertissants dont il a rempli son tableau, sans rien faire néanmoins, dont le trop grand éclat éblouisse les yeux et les détourne de dessus les figures qui en sont le principal objet. Qu'il est certain que dans une disposition du tableau, plus il y a de figures et plus les yeux de ceux qui le regardent trouvent d'objets qui les arrêtent. Que le peintre, voulant fixer entièrement la vue des spectateurs sur le Christ pour faire observer son action, il lui a été plus avantageux de le représenter accompagné de peu de monde. » Philibien parle donc, tout comme Philarète, d'un mouvement plus ou moins agréable des yeux du spectateur. L'œil se promène dans le tableau, et cette promenade est d'autant plus agréable, plus satisfaisante, comme il dit, que l'œil trouve des repères où il peut s'arrêter de temps à autre. Il faut, d'une part, que ces repères soient reliés les uns aux autres, et il faut, de l'autre, une claire hiérarchie pour que le regard soit attiré d'abord et surtout par le sujet principal. Si Philibien parle du mouvement du regard, c'est pour expliquer ce que nous appellerions aujourd'hui la composition du tableau, de ces tableaux, c'est-à-dire l'agencement des parties du tableau, les unes par rapport aux autres et par rapport à l'ensemble. Pourquoi est-ce que Philibien fait recours à la vue du spectateur au lieu de parler tout directement de la composition ? D'une part, parce que le terme « composition » ne faisait pas partie du discours sur l'art dans les années 1660. On pouvait parler de disposition, c'est ce que fait parfois Philibien, mais ce terme n'était pas connu par rapport au tableau. C'était un terme qui existait bien dans la rhétorique. La disposition d'un texte était un concept très répandu, mais il n'existait pas encore de terme que tout le monde aurait pu comprendre pour parler justement de ce que nous appelons aujourd'hui la composition. Et donc, le regard du spectateur qui va d'un endroit à l'autre est une façon de parler de ce pourquoi on n'a pas d'autres termes. Alors, pourquoi est-ce qu'on se sert de cela ? Il semble bien que Philibien et beaucoup d'autres ont ressenti qu'il y a un certain lien entre le comportement de l'œil et la composition du tableau, lien qui et justement la question un peu fondamentale que je vais poser de façon plus précise dans le prochain cours. Ce concept de Philibien, peut-être de Philibien, Lebrun, Bourdon et d'autres, se répand très rapidement à Paris. Preuve en est que 2 ans après les conférences de l'Académie et 1 an après leur publication, Molière écrit une longue poésie en défense de son ami Pierre Mignard sur sa fresque monumentale de la coupole du Val-de-Grâce. On y trouve une reprise directe de l'idée de faire ressortir la figure principale, Et je cite Molière, « Il, Mignard, nous montre à poser avec noblesse et grâce la première figure à la plus belle place. Riche d'un agrément, d'un brillant de grandeur, qui s'empare d'abord des yeux du spectateur. Prenons un soin exact que dans tout ouvrage, elle joue au regard le plus beau personnage et que par aucun rôle du spectacle placé, le héros du tableau ne soit effacé. » Et c'est ensuite surtout Roger de Pile qui développe et popularise encore cette idée. Il la reprend dès 1677 dans ses conversations sur la connaissance de la peinture lors d'une description du massacre des innocents de Rubens, et puis surtout dans son cours de peinture par principe de 1708, un des manuels d'art les plus lus au XVIIIe siècle. Je cite de ce cours, « Les yeux ont cela de commun avec les autres organes des sens qui ne veulent point être interrompus dans leurs fonctions. Et il faut convenir que plusieurs personnes qui parleraient dans un même lieu, en même temps et de même ton, feraient de la peine aux auditeurs qui ne sauraient auxquels entendre. Semblable chose arrive dans un tableau où plusieurs objets séparés, peints de même force et éclairés de pareille lumière, partageraient et inquiéteraient la vue, laquelle étant attirée de différents côtés, serait en peine sur lequel se porter. Ou qui, voulant les embrasser tous d'un même coup d'œil, ne pourrait les voir qu'imparfaitement. Pour éviter donc la dissipation des yeux, il faut les fixer agréablement par les liaisons de lumière et d'ombre, par des unions de couleurs et par des oppositions d'une étendue suffisante pour soutenir les groupes et leur servir de repos. Mais si le tableau contient plusieurs groupes, il faut qu'il y en ait un qui domine sur les autres. La satisfaction des yeux est donc l'un des fondements de l'unité d'objet dans les tableaux. Le précepte est le même que celui qui avait été formulé de façon pas aussi explicite par Félibien. Il faut composer de façon claire, avec plusieurs groupes bien repartis et un groupe principal. La justification de ce précepte est aussi la même. Il faut rendre le mouvement de l'œil agréable. On remarque donc que 40 ans après les conférences, De Pile reprend les concepts des conférences, mais les explique de façon beaucoup plus précise, circonstanciée, et donc répand cette idée avec un effet qui est un tout autre. On pourrait dire que ce cours de peinture est une explication des préceptes du peintre justifiée par une physiologie de l'œil. Alors, c'est le cas pour ce que je vous ai expliqué, c'est le cas pour quelque chose de très semblable qui développe un peu plus tard et qui développe à l'aide de l'une des rares tables de ce cours. C'est la table dans laquelle il montre l'idée de la grappe de raisin qu'il appelle la grappe de raisin de Titien. Est-ce que Titien a jamais parlé de cette grappe ? Je n'en sais rien. Je crois que nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas l'exclure, mais cette idée est surtout une idée qui est liée à Roger de Pile. Donc l'idée de dire que quand une grappe est peinte de cette façon-là, elle est bien faite, donc il faut que chacun des objets montre son volume par des ombres et des lumières, mais il faut que l'ombre principale se trouve en un endroit et non pas dans chacune. Alors que si on peignait des grappes ou des boules de façon comme c'est montré ici, on disperderait le regard, on aurait une composition à laquelle il manquerait un sujet principal, à laquelle il manquerait une hiérarchie, à laquelle il manquerait un ordre, et qui serait donc une mauvaise composition. Comme je l'ai mentionné déjà, la théorie de la composition en peinture est développée au cours du XVIIIe siècle. Très souvent, elle est accompagnée par une description du mouvement des yeux du spectateur. Je vous en donne juste deux exemples. L'un par Christian Ludwig von Hagedorn, dans son texte écrit en français « La lettre à un amateur de la peinture » est publié à Dresde en 1755. Il s'agit d'un tableau de Swanevelt qui faisait partie de sa collection et qui a disparu. Donc, je ne vous montre pas de tableau, mais je vous lis le texte. C'est peut-être une occasion pour être encore plus attentif au texte même et aux formulations de ce texte. Un chemin étroit, bordé de grands arbres, occupe le devant à la droite du tableau et forme une perspective d'autant plus agréable que l'ombre que jettent les arbres à gauche du défilé invite l'œil à y reposer après avoir été attiré au moyen du grand jour glissant sur l'arbre principal. L'œil est encore plus attaché de ce côté par la beauté des figures principales très bien dessinées et touchées avec esprit. Plus loin, on voit une villageoise avec un jeune homme descendre d'un terrain montueux qui borne la vue de ce côté pour la porter à l'autre. La plaine à gauche découvre un grand chemin dans un terrain bas et humide. Il est entièrement dans l'ombre supposée venir d'une colline couverte d'arbres qu'on voit du même côté et qui intercepte les rayons du soleil, site nécessaire pour faire, après ce grand repos, passer l'œil à la partie la plus éclairée dans des demi-loins fort riants. Et le deuxième texte d'un théoricien, Michel-François d'André Bardon, dans son traité de peinture publié à Paris en 1765, un des principaux objets de la liaison des groupes est de conduire l'œil du spectateur sur le héros du sujet. Vous voyez, c'est toujours le même principe, la même idée qui revient. Il convient que cette opération se fasse par une marche diagonale. Et là, vous voyez qu'il y a des nouveautés. Le nombre de termes géométriques, le nombre de termes techniques a énormément augmenté entre 1708, Roger de Pile qui n'en a presque aucun, et 1765 d'André Bardon qui par contre en a beaucoup. Donc il convient que cette opération se fasse par une marche diagonale. Pour soutenir artistement la lumière principale, il faut introduire des échos lumineux qui appellent successivement l'œil du spectateur et qui le promenant d'un bout à l'autre sur des lignes diagonales. La lumière principale doit, autant qu'il est possible, présenter dans sa marche et dans sa progression des formes triangulaires, une trace diagonale et une chaîne successive dont l'œil ne perd jamais le fil. Maintenant, le pas entre 1765 et 67 n'est plus que très petit, et je reviens donc au texte, dans mon texte de départ, à Diderot. On voit que ce texte se base sur un discours qui, en 1767, était depuis un siècle largement répandu, et puis surtout répandu à Paris. Pour Diderot, tout comme pour Félibien, De Pile, Hagedorn, d'André Bardon et tant d'autres, il y a un lien étroit entre la composition du tableau et le regard du spectateur. Ceci dit, il y a aussi une différence remarquable entre le concept de Philibien d'une promenade de l'œil et celui de Diderot d'une ligne de liaison. La promenade veut dire que l'œil peut aller librement d'un endroit à l'autre, en avant, en arrière, à gauche, à droite. La ligne de liaison, par contre, signifie qu'il y a un parcours strict que l'œil suit dans une belle et bien dans une certaine direction et pas dans l'autre. Ce concept de ligne de liaison est très proche du texte, de la lecture, mais aussi de l'écriture. Et Diderot en est très conscient. Il écrit « Cette ligne conduira et celui qui la regarde et celui qui tente de la décrire ». Et cela explique, je pense, quelque chose sur lequel on s'est posé des questions. Pourquoi est-ce que Félibien et Lebrun, qui connaissaient la lettre que Poussin avait écrite à Chanteloup, le commanditaire de la manne, lettre dans laquelle Poussin écrivait cette fameuse phrase « Lisez l'histoire et le tableau ». Pourquoi est-ce que Lebrun et Félibien, qui en 1667 tiennent une conférence sur ce même tableau, ne citent pas la lettre de Poussin, ne citent pas surtout cette indication qu'ils auraient pu reprendre comme précepte pour interpréter, pour parler du tableau? Ils ne le font pas, je pense, parce que ce concept d'une lecture du tableau aurait porté à une direction unilatérale qui ne correspond pas à l'approche de la promenade qu'ils poursuivent. Alors pourquoi Diderot développe la promenade en ligne de liaison ? Il me semble qu'il y a trois raisons qu'on peut envisager. La première est que peut-être Diderot pense de s'approcher à la vérité physiologique bien plus que dans le modèle de la promenade. La deuxième est qu'il y a eu une révolution dans la théorie esthétique, révolution dont j'avais parlé dans le cours précédent. Vous vous souvenez du livre de Hogarth, l'analyse de la beauté de 1753, analyse selon laquelle la ligne devenait un concept principal de la théorie esthétique. Et c'est un livre que Diderot connaît bien, et se pourrait effectivement que l'idée d'une ligne de liaison est une reprise de cette idée de la ligne en tant que concept esthétique important. La troisième raison possible, et à mon avis même peut-être la plus probable, est que c'est l'exhaustivité de l'analyse formelle qui porte à développer le concept d'une promenade à une ligne de liaison. C'est en effet une nouveauté du salon de 1767. Diderot n'avait pas auparavant discuté sur 20 pages d'une seule œuvre. Alors le plus on est long dans son analyse, le plus on va dans les détails et le plus on a tendance à renforcer l'aspect de l'interprétation de l'auteur de ce long texte. De ces trois raisons, je vais discuter la première dans l'aspect physiologique la semaine prochaine. La deuxième, Hogarth, me semble important, mais pas suffisant pour expliquer ce pas qui est d'une grande envergure. Et la troisième, la question du genre et de la longueur du texte, est quelque chose qui peut peut-être s'expliquer aussi en regardant quelle a été l'histoire successive du concept de la ligne de liaison de Diderot jusqu'à aujourd'hui. Disons d'abord que, de façon générale, il y a depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle et tout au cours du XIXe et du XXe un grand nombre de textes sur les arts qui prennent en compte le regard du spectateur. Il n'est pas facile d'établir une statistique. Je pense que c'est un ordre de 5 à 10% des descriptions longues dans lesquelles il est question du regard. Et il y a une apogée qui est très claire à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Il y a dans la littérature de l'art différents modèles d'un œil du spectateur. Le modèle le plus répandu est celui du rapport entre le mouvement des yeux et la composition du tableau. Et l'idée de la ligne de liaison pourrait être considéré comme un raffinement, comme un retrécissement de ce rapport général. Or, cette idée, émise pour la première fois par Diderot, n'a pas eu de suite de succès immédiat. Il n'y a pratiquement aucun texte dans les années qui suivent qui reprenne l'idée d'une ligne de liaison. bien que le texte de Diderot était connu et même assez fameux. Ce n'est que vers un siècle plus tard, donc après la moitié du XIXe siècle, que l'on constate une renaissance de ce concept. Et il faut se poser la question, est-ce que c'est une renaissance du concept de Diderot ou est-ce que c'est plutôt une réinvention de ce concept? Et il me semble bien que c'est le cas. Ce sont des textes qui ressemblent beaucoup dans leur genre à l'interprétation de Diderot, mais qui ne se servent pas de ces mêmes termes, qui semblent plutôt réinventer ce concept sans le recevoir de façon directe. Cette réinvention du concept est centrée dans les universités de langue allemande et elle est, je pense, intimement liée à l'institution de l'histoire de l'art comme matière universitaire, donc scientifique. C'est un phénomène qui se passe à partir des années 1850, où dans les universités de langue allemande, donc en Allemagne, mais aussi en Suisse et surtout en Autriche, dans chaque université, peu à peu, on introduit des chaires d'histoire de l'art. Alors, quelle est la différence entre un historien de l'art qui travaille dans un musée, qui travaille pour écrire des textes en tant qu'auteur, et un historien de l'art qui se trouve dans une université? Celui qui est dans l'université doit démontrer qu'il est un scientifique. Donc, il y a une poussée remarquable de l'analyse formelle dans les textes allemands de professeurs d'histoire de l'art universitaire à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle et une poussée de la longueur des descriptions analytiques des œuvres. Alors, des exemples dont je ne vais pas citer maintenant des œuvres pour question de temps. Un exemple intéressant de quelqu'un qui se sert beaucoup de ce genre de description de l'œil, aussi des parcours très précis de l'œil, est l'archéologue Heinrich von Brunn. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'avant même que l'histoire de l'art s'établisse en tant que matière académique, c'était l'archéologie qui l'était déjà. Et donc ce n'est peut-être pas un hasard qu'un archéologue ait une certaine précocité. Archéologue qui, cependant, n'écrit pas seulement sur des objets de la Grèce ancienne, c'était un spécialiste de la Grèce ancienne, mais aussi, entre autres, sur Raphaël et sur nombre d'autres peintres modernes. La différence, à l'époque, n'était pas aussi claire qu'elle le serait aujourd'hui. Heinrich von Brunn était le maître de deux historiens de l'art très importants pour le développement de la matière dans le monde de langue allemande. C'est Josef Strigowski, qui a eu une chaire d'histoire de l'art à Graz d'abord et ensuite à Vienne, donc en Autriche, et ce depuis 1882, et Heinrich Wölfflin, suisse, qui a eu des chaires d'histoire de l'art à Bâle, ensuite direct de Burckhardt, et ensuite Berlin, Munich et Zurich, ce depuis 1893. Tous les trois font de longues analyses de la composition d'œuvres d'art que l'on peut rapprocher de celle de Diderot. Brunn analyse les fresques de Raphaël au Vatican en 1867, donc exactement 100 ans après le salon de Diderot. Et c'est aussi un des premiers textes où on peut repérer ce principe de la ligne de liaison, même si exprimé de façon différente, dans ce contexte très différent qui est celui du salon de Diderot. Wölfflin souligne dès 1898 que la direction de l'œil est unilatérale et qu'elle va généralement de la gauche à la droite. C'est Wölfflin qui, en se servant de diapositives qui, par méprisance, ont été mises dans le mauvais sens, va voir que la composition d'un tableau, le sens d'un tableau est complètement différent si on le voit dans un sens ou dans l'autre. Je vous vais peut-être en donner un exemple dans le prochain cours. Alors, si je souligne tellement les textes allemands, il faut quand même dire qu'il y a des textes français et anglais, italiens aussi, un peu de ce même genre. Et je nomme par exemple un livre de Marcel Wahl, publié en 1936 et puis en deuxième édition en 1955. Un livre qui est intéressant parce que l'auteur fait ce que n'a pas fait Diderot, elle accompagne le texte de schéma de composition. Ce que moi, j'ai fait pour Diderot, que Diderot n'a pas fait lui-même, qu'il a peut-être bien eu raison de ne pas faire. Je cite quelques lignes du texte de Val et vous allez voir les problèmes de tel schéma. Nettement accentuée, la courbe A, C, D, E, F, G, A, C, D, E, F, G, entraîne le spectateur dans son sillage. Notre œil la suit. Et le mouvement que cette vue dans l'espace et dans le temps fait naître en nous se poursuit intérieurement par la vibration qu'il a déclenchée, utilisant les points de repère conducteurs I, J, G1, K. I, J, G1 et K à droite. Merci. Remarquez donc l'idée de qualité spécifique des différents mouvements des courbes et donc de l'œil et donc du spectateur même, de son âme en quelque sorte. L'idée que la qualité du mouvement de l'œil... L'idée est que l'œil soit conduit par le tableau et que cette conduction qui correspond évidemment aussi à l'attention du spectateur, se transforme en une certaine qualité qui est une qualité intérieure. Et c'est un concept qui est très courant chez Val, mais aussi dans nombre d'autres descriptions allemandes, italiennes, françaises, donc de cette époque, de la fin du 19e et du début du 20e. C'est l'historien de l'art Kurt Bath qui a réalisé le climax académique du concept de ligne de liaison. En 1961, dans un livre qui a été très largement et intensivement discuté en Allemagne, il a développé une méthode d'analyse de tableaux basée sur la détection de la ligne de composition. Bath prétend qu'il faut lire chaque tableau de gauche à droite, selon leur propre ligne de composition, que cette ligne guide non seulement l'œil du spectateur, mais qu'elle doit surtout guider l'analyse de l'historien de l'art. Un des exemples préférés est la scène du Tintoret à San Giorgio Maggiore à Venise, et je traduis et cite le début d'une très très longue description, je me limite environ à un quart. Je cite « La composition commence dans le coin inférieur gauche, là où se trouve un personnage debout, pieds nus, avec un long bâton à la main. Ce pèlerin parle avec le premier des apôtres et l'on pourrait croire que la composition irait directement vers le personnage principal, le Christ. Mais ce n'est pas le cas. Par l'attitude des apôtres, la rotation de son corps et le mouvement de ses mains qui sont soulevées et empêchent clairement l'émergence d'un lien spirituel entre le pèlerin et le Christ, il surgit entre lui et l'apôtre suivant, donc cet endroit-là, qui se détourne vigoureusement du premier, une pause dans la composition. Le regard qui s'arrête est alors dirigé vers le bas, suivant l'axe du corps de l'apôtre, longeant sa jambe illuminée. La vue est guidée par le subtil accent lumineux du carrelage au prochain groupe du premier plan. Ça, c'est le subtil illumination du carrelage. Le chien qui sort de sous la table et poursuit un chat. Celui-ci s'attaque à un panier avec de la nourriture qui est exactement à droite du centre, bien en évidence. Nous suivons donc un motif trivial à une petite scène de genre aux antipodes de la grandeur de la procédure qui va constituer le thème principal du tableau. Un autre motif distrayant suit pour nous détourner de l'axe principal, le chef de cuisine, grande figure de dos en mouvement de danse. De là, l'œil est porté en passant par une deuxième nature morte à une autre servante jusqu'à ce qu'il arrive au grand bol avec une serviette, avant de se perdre dans les profondeurs de l'espace. Et de là, la vue sera conduite presque horizontalement vers la gauche, donc comme ça, et c'est seulement par la suite qu'on va revenir, et la description continue, et je ne la lit plus, sur le centre et surtout sur la figure principale qui est évidemment le Christ. J'en viens donc, pour les dernières minutes, à la deuxième partie, au deuxième modèle, l'histoire de l'œil, métaphore d'une histoire et géographie de la perception. Depuis Winckelmann, et surtout avec l'institution de l'histoire de l'art dans les universités de langue allemande, le but essentiel de cette nouvelle discipline a été de faire des analyses de la forme des œuvres pour déterminer les caractéristiques du style, c'est-à-dire les caractéristiques communes à un artiste, à une région ou à une époque. Et il y a une synergie entre l'analyse des formes et donc de la composition des œuvres et la description du regard, un discours dont je viens de parler. Mais certains tirent des conclusions qui vont bien au-delà, des conclusions selon lesquelles les différences de formes sont directement liées à des différences du regard, à des différences donc dans la modalité de perception des hommes ou femmes d'une certaine époque ou encore d'une certaine région par rapport à une autre. Je pense que c'est Heinrich Wölfflin, dont j'avais déjà parlé, qui a en premier tiré ses conséquences dans un livre publié en 1899, « L'art classique », et traduit en français en 1911. Donc, je cite Wölfflin, qui parle de la dispute du Saint-Sacrement avant de généraliser son propos. Un fort courant mène de la gauche au centre. Le jeune homme, au geste pointu, qui est là, avec ce geste, ceux qui sont en adoration et la figure de dos pathétique forment une somme de mouvements identiques que l'œil veut bien suivre. Raphaël a toujours pris soin, plus tard aussi, de guider l'œil du spectateur. Si la dernière des figures centrales, Augustin, en train de dicter, se retourne, on comprend le but du geste, il doit faire passer au côté droit où le mouvement arrive à une impasse. Il faut donc une figure qui fasse passer l'œil qui est arrivé jusque-là à la deuxième moitié de cette fresque. Ce genre de considérations formelles sont complètement nouvelles par rapport au XVe siècle. Alors que les peintres plus anciens comprimaient, pressaient une tête derrière l'autre, Raphaël les déboîte de sorte que chaque figure puisse évoluer dans une clarté totale. Là aussi, il prend des égards pour l'œil. Les groupes de figures, chez Botticelli et Filippino Lippi, exigent une vue tendue et rapprochée si l'on veut distinguer l'individu dans la foule. Dans l'art du XVIe siècle, l'œil est dirigé et appelle à la simplification. Ce concept d'une forme différente qui est basée sur une vue différente est à la base de son livre peut-être le plus connu. Ce sont les principes fondamentaux de l'histoire de l'art, le problème de l'évolution du style dans l'art moderne, publié en 1915 et traduit, je crois, seulement en 1952 en français. C'est un livre dans lequel il va établir cinq paires de termes qui caractérisent l'art du XVIe siècle par rapport au XVIIe, et donc où il formule l'idée d'une évolution des formes entre le XVIe et le XVIIe, mais ces formes sont basées sur une évolution de la vision, du regard, qu'il appelle lui-même une Geschichte des Sehens, une histoire de la vision, et il est très très flou quand il s'agit de discuter si cette histoire du regard est une histoire du regard de l'artiste ou encore une histoire du regard du spectateur. Il pense plutôt à une histoire du regard de l'artiste, mais il évite de préciser ce concept. Et on voit que, de préface à préface, le livre a eu une dizaine d'éditions en allemand de son vivant, de préface à préface, il est toujours plus cautionné pour décider comment expliquer les phénomènes qu'il explique de façon formelle et de façon très convaincante sur le plan formel. Alors, il y a une logique qu'on comprend assez bien. Comment est-ce que Wölfflin arrive à cette idée d'une histoire du regard, puisqu'il relie le regard à la forme et il remarque une histoire de la forme. Il y a cependant une préhistoire pour concevoir ce concept, et c'est une histoire qui est liée au siècle des Lumières, du moins allemand, à Herder et Lessing, qui, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ont formulé l'idée que l'histoire de l'humanité est une histoire de l'évolution des aptitudes, des capacités. Et donc, parmi les nombreuses aptitudes qui ont évolué, le regard aussi a une évolution. C'est une idée qui est reçue dans l'histoire de l'art assez tôt, enfin relativement tôt, du moins Moritz Tausing, qui a eu une chaire d'histoire de l'art à l'Université de Vienne en 1873, parle dans sa conférence d'inauguration du fait que le but de l'histoire de l'art est justement d'étudier l'évolution de la vision. Et alors, une apogée de ce concept se trouve chez quelqu'un que vous connaissez certainement et qui est Daniel-Henri Kahnweiler, le galeriste de Picasso et de tant d'autres des modernes à Paris. Galeriste qui, ce qui n'est malheureusement que rarement le cas aujourd'hui, a une grande envergure de théoricien et qui cherche évidemment à avoir des arguments pour défendre l'art moderne et entre autres l'art cubiste. La première fois dans un article de 1919 et puis dans un important livre de 1920 dont vous voyez la couverture et le frontispice, Kahnweiler formule l'idée suivante, qu'il y a deux sortes de regards. Il y a le regard pratique, mais qui n'intéresse pas dans les arts, et il y a le regard esthétique. Et pour ce qui est du regard esthétique, nous voyons exactement de la même façon dont nous représentons, dont nous peignons à une certaine époque. Donc, il n'a aucun sens, à son avis, de dire que les primitifs ou les gens du Moyen-Âge pouvaient représenter le monde de façon moins bonne que les artistes de la Renaissance. Non, c'est que les gens du Moyen-Âge voyaient le monde de la même façon que les peintres du Moyen-Âge le représentaient. Les personnes de la Renaissance voyaient le monde comme Raphaël et Michel-Ange ont représenté le monde. Les gens qui le connaissaient encore à son époque, donc de la fin du XIXe, voyaient le monde de la même façon que les impressionnistes avaient peint le monde. Et nous allions tous bientôt voir le monde de la façon dont Picasso et Braque l'ont peint, donc de façon cubiste. Et l'argument a une logique intéressante qu'il développe très bien et qui est très fort pour prendre la défense de ces artistes. Le problème est que dans les années 50, Gombrich a écrit une lettre à Kahnweiler pour lui dire « Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que nous ne voyons toujours pas le monde de façon cubiste ?» Et c'est là que je vais reprendre mon cours la semaine prochaine. Merci pour votre attention.